Nous ferons la lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Nous lirons les versets, depuis le verset 3 jusqu'au verset 7. Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. »
J'aimerais juste poser une question à propos de la conversion. Dans le Nouveau Testament, il y a peu de passages où se trouve le mot conversion. On a vu que souvent c'est se tourner vers. Et il y a un passage dans Matthieu 13, Marc 4, Jean 12 et Acte 28 qui tous se réfèrent au passage d'Ésaïe 6, verset 10. Et là, il est chaque fois dit à propos du peuple de peur qu'il ne se convertisse. Comment peut-on expliquer cela? Parce que cela dit plusieurs fois, je les engraisserai afin qu'ils ne se convertissent pas. Comment peut-on comprendre ces passages? Donc ça vient de Ésaïe 6, verset 10. Puis nous avons Matthieu 13, 15, Marc 4, 12, Jean 12, 40 et Acte 28, 27.
Peut-être une petite suggestion par rapport à cette question. Alors, c'est une citation, comme le frère a dit, d'Ésaïe 6. Et si nous regardons rapidement le premier passage dans les évangiles, alors Matthieu 13, on trouve que les disciples avaient posé une question au Seigneur, parce que le Seigneur avait parlé en parabole. Alors, les disciples posent cette question dans le verset 10. Pourquoi tu parles en parabole avec eux? Et là, le Seigneur donne cette réponse. C'était parce que, comme Ésaïe avait prophétisé, comme il avait déjà dit, je vais leur parler dans une façon qu'ils ne comprennent pas. Plus tard, le Seigneur explique les paraboles à ses disciples dans la maison. Alors, eux, ils pouvaient comprendre, mais la majorité du peuple, non. À première vue, c'est très étrange. Pourquoi le Seigneur parle d'une façon qu'ils ne comprennent pas? Mais il faut voir qu'ils s'étaient endurcis avant. Alors, je dirais que c'est un genre d'aveuglement gouvernemental. C'est très sérieux. Si j'ai un peu de lumière et je refuse d'agir selon cette lumière, ma lumière diminuera de plus en plus. C'est ce que je veux dire par aveuglement gouvernemental. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas écouter, le Seigneur parle d'une façon qu'il ne pouvait pas comprendre. Et le résultat, c'était que, qu'il ne se convertissait pas. Alors, peut-être il y a d'autres pensées, mais peut-être comme suggestion que cela indique les conséquences tragiques de leur état de cœur, que le Seigneur parle de cette façon qu'ils ne comprennent pas et ne se convertissent pas.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael, mais ce n'est pas à nous de dire il est durci. C'est un travail de Dieu. Notre travail, c'est toujours de faire un maximum que quelqu'un puisse trouver le Seigneur. ça c'est dangereux de dire ça ne vaut plus la peine. Non, c'est faux. La grâce de Dieu peut toujours amener un cœur à la croix du calvaire.
Juste une suggestion placée devant les frères. Si nous lisons Ésaïe 6, nous voyons donc effectivement cette parole « Va et dis à ce peuple » et « Engraisse le cœur de ce peuple », etc. Ensuite, nous voyons la question d'Ésaïe. « Je dis jusqu'à quand, Seigneur ?» Cela rejoint ce qui vient d'être dit. Il y a encore un travail de la grâce que le fidèle peut attendre. Et le dernier verset de ce chapitre, mais il y en aura, Ésaïe 6 donc, mais il y en aura encore un dixième et il reviendra. Il sera brouté, etc. Il sera épuré, éprouvé, mais il y aura encore un dixième. Donc il y a ce travail, c'est peut-être aussi dans ce passage plus un jugement gouvernemental prononcé sur Israël en tant que Israël responsable de recevoir son Messie. En revanche, il y a toujours un résidu, et les disciples faisaient partie de ce résidu, et nous avons la promesse d'Ésaïe, il y aura un reste qui reviendra. Peut-être s'agit-il plus donc de quelque chose qui, dans le gouvernement de Dieu, concerne le rejet du Messie par Israël, et donc l'endurcissement, comme le dit l'apôtre Paul, un endurcissement partiel leur est survenu. Globalement, Israël est endurci, ce qui n'empêche pas que la grâce trouve un résidu. Les disciples en étaient un, et dans Ésaïe, la réponse divine, c'est « il y aura un reste ». Donc, ne nous décourageons pas, effectivement. Nous ne savons pas qui sera ce reste. Dieu travaille.
Il y avait un évangéliste qui allait chez un monsieur, et il comptait chaque fois combien de fois il le visitait. Et à la 49e fois, il se convertissait. Il était très heureux. Alors, après quelques jours, il posait la question, « Comment ça se fait? Pourquoi ça a duré si longtemps? Je suis venu 49 fois et j'ai parlé avec toi sur le Seigneur Jésus. » Alors, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, « J'espère vous serez venu une 50e fois. Ça m'a toujours fait du bien, mais je n'ai pas osé. »
Ce matin, nous avons parlé à plusieurs reprises de Luc 15. Et cette histoire du fils prodigue nous explique les vérités qui étaient devant nous ce matin. La repentance et la conversion et aussi la confession. Très brièvement, nous avons vu, il est revenu à lui-même, changement de pensée, changement d'avis, la repentance. Après, les pieds ont suivi le cœur, la conversion. Il s'est allé, il est revenu à son Père, la conversion. Il a changé la direction. Et troisièmement, c'est sa confession. Et il a confessé deux choses. Il a confessé ce qu'il avait fait, ce qu'il avait commis. Et il dit, j'ai péché. Et il a fait une confession de ce qu'il était. Je ne suis pas digne. Ça, c'est aussi d'une importance de reconnaître ce que nous avons commis, nos péchés et ce que nous sommes par nature des pécheurs. Voilà ces trois choses, la repentance, le cœur, la conversion, les pieds, la confession, la bouche. Et que le dit le Père à la fin de cette histoire? Et j'aimerais lire le dernier verset de ce chapitre. Le Père dit, « Il fallait faire bonne chère et se réjouir, bien sûr, car celui, ton frère, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était perdu, c'est la brebis, n'est-ce pas? Le premier passage de ce chapitre, la brebis était perdue et a été retrouvée. Une activité entièrement divine. C'est le berger qui a cherché sa brebis. Mais le Père dit aussi, il était mort et il a retrouvé la vie. Voilà le deuxième passage de ce chapitre, la drachme. Mort et venu, revenu à la vie. Une activité du Saint-Esprit. Le troisième sujet de notre petite conférence aujourd'hui, les opérations et le don, ici plutôt les opérations, et nous allons considérer le don de l'Esprit Saint. Mais cette expression, il était mort et il est revenu à la vie. C'est une petite entrée, n'est-ce pas? Une petite introduction à notre sujet maintenant. La nouvelle naissance. Par nature, nous sommes morts. Nous avons d'une nouvelle vie. Nous avons une vieille nature et nous avons besoin d'une nouvelle nature. Nous avons besoin d'être nés de nouveau. Et ce que nous avons lu dans l'évangile selon Luc, selon Jean, chapitre 3, où le Seigneur Jésus lui-même parle de la nouvelle naissance, une exigence pour chacun de nous. Par nature, nous sommes perdus, nous sommes morts. Et nous, chacun de nous, nous avons ou nous avions nous, maintenant, nous avions besoin de la nouvelle naissance et il vaut la peine d'étudier ce sujet. Cette nouvelle naissance, une naissance spirituelle qui se base de nouveau sur l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus et à lui la gloire. En étudiant un tel sujet.
La scène de Nicodème et du Seigneur est très instructive. Comment cet homme, docteur de la loi, chef des Juifs, vint de nuit à Jésus, il avait peur du qu'en dira-t-on, et il va faire cette rencontre avec le Seigneur. L'évangile de Jean, on a beaucoup, on a dit que c'était l'évangile des rencontres personnelles avec les âmes. On en voit beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est très touchant de voir comment le Seigneur se prend avec l'une ou avec l'autre des âmes qui s'adressent. Et là, Nicodème, c'était pas le dernier. C'était ni ses qualités, ni ses connaissances qui pouvait le conduire à la foi. Et le Seigneur lui montre bien si quelqu'un est né de nouveau. Et à la fin du verset 7, il vous faut être né de nouveau. Et on voit qu'il parle de l'Esprit de Dieu qui agit, n'est-ce pas? Tout homme qui est né de l'Esprit. Et le Seigneur lui dit, tu es le docteur d'Israël, tu connais pas ça? Ah, il faut que nos pensées, notre foi en nous-mêmes, notre capacité, tout cela soit mis de côté pour que le Seigneur puisse faire son œuvre, son travail dans les cœurs, dans chacun de nos cœurs. La nouvelle naissance. Chemin si important et je pense que nous devons rappeler cela aujourd'hui dans les rassemblements, dans les assemblées. Peut-être qu'on le fait pas beaucoup, pas assez peut-être. On peut suivre les réunions, venir, etc. Est-ce qu'il y a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur?
un changement de vie, comme on l'a dit. Il y a aussi la repentance, il y a des œuvres à la repentance, mais cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle, c'est capital, n'est-ce pas ? On peut pas, il n'y a pas de vie chrétienne sans qu'il y ait eu d'abord une vie nouvelle. Ayons à cœur de le dire, de le vivre, mais de le dire aussi à tous nos jeunes. Il faut qu'il y ait cette rencontre au début de, en Jean 1, on voit le Seigneur qui dit, venez, voyez. Et on voit qu'il y a André, et puis Simon, et puis Philippe, et puis Nathanaël. Chacun est venu personnellement avec ses besoins. Et le Seigneur a répondu à chacun, il s'est révélé à chacun. Dans le chapitre suivant, au chapitre 4, comme c'est beau de voir cette femme samaritaine, n'est-ce pas ? Le Seigneur est sur le puits de Sichar et il va dire, tu as soif, mais si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te parle, qui te dit, tu donnais de l'eau vive. Cette femme, elle avait eu 5 maris, 5 déserts, 5 épreuves. Et elle va trouver celui qui lui dit la vérité. Le témoignage qu'elle rend, c'est « Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Appelle ton mari. La conscience est touchée. Et alors, elle peut venir à la source des eaux vives et trouver la vie éternelle. Et même être un témoin auprès de tous ceux qu'il dans la ville. Elle avait rencontré la source des eaux vives, ce dont nous avons besoin. Un exemple dans l'Ancien Testament de Jacob, au chapitre 32, juste cette expression, Dieu lui dit, c'est l'ange de l'Éternel, quel est ton nom ? Il dit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Verset 30, et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait Péniel. Il y a eu cette rencontre personnelle de Jacob avec l'ange de l'Éternel. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Que cette expérience-là soit celle de chacun de ceux qui ont entendu l'Évangile, cette expérience d'avoir rencontré le Seigneur, que notre âme a été délivrée. Et il est vital, capital, que ce travail de la nouvelle naissance soit effectué, que nous puissions y penser pour tous ceux qui nous suivent, toutes nos jeunesses, tous ceux qui viennent dans nos réunions, rappeler l'importance de ce début de la vie chrétienne.
C'est bien intéressant de voir comment cet entretien entre le Seigneur Jésus et Nicodème commence. En verset 2, nous lisons que le texte dit, ou le texte cite Nicodème, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et quelquefois, les frères présentent la réponse du Seigneur en verset 3 comme si c'était une interruption de ce que Nicodème voulait dire. Mais Nicodème voulait avoir une doctrine. Il s'adresse au Seigneur Jésus comme docteur ou à quelqu'un qui pouvait donner de l'enseignement. Et le Seigneur donne la réponse, oui, je veux te donner un enseignement, mais cet enseignement, ça veut dire que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'enseignement, c'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est la réponse en verset 3. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas bien enseigné, mais si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons écouté déjà le matin que la nouvelle naissance, c'est l'activité de Dieu dans une âme. La conversion que nous avons étudiée brièvement dans le matin, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas le Seigneur qui nous convertit. Ce sont nous qui avons la responsabilité de nous convertir. mais ces deux choses vont ensemble. Et ici, le Seigneur fait clair que cette activité de la côté du Seigneur ou de Dieu est nécessaire pour chaque âme qui veut arriver en contact et en communion avec lui, avec Dieu. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui nous montrent que ces deux choses vont toujours ensemble. Si nous restons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, nous avons bien connu les versets 12 et 13. Chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est l'activité de l'homme. Et verset 13, lesquels sont nés, l'activité de Dieu. C'est toujours formulé dans le passif, être né. On ne peut pas se naître lui-même. Ou le verset très bien connu, chapitre 3, verset 16. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est l'activité de l'homme, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est l'activité de Dieu, n'est-ce pas? Ou la même chose dans la première épître de Pierre, en chapitre 1, à la fin de ce chapitre, verset 22, ayons purifiez vos âmes par l'obéissance à la vérité, c'est l'activité de l'homme. Et verset 23, vous qui êtes régénérés, l'activité de Dieu. C'est notre sujet ici en Jean chapitre 3. En vérité, je te dis, si quelqu'un naît, né de nouveau. Et cette activité de Dieu, c'est une activité qui a son origine, comme nous avons vu déjà, hors de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons comme hommes. C'est Dieu qui nous donne cette vie. Et c'est une rénovation, il y a quelque chose de nouveau qui doit être renouvelé dès son origine. Ce n'est pas une amélioration. C'est une chose complètement nouvelle. Et moi, j'ai fait l'observation que ça, c'est un sujet très pratique aussi pour notre service pour le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont plus ou moins compris la vérité de la conversion et aussi de la repentance. Mais cette vérité de la nouvelle naissance, ce n'est pas très bien connu. Et en effet, une conséquence de cette manque, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, même de vrais croyants, qui n'ont pas l'assurance du salut. Une raison pour cela, un motif pour cela, c'est souvent un manque de connaissance ou d'entendement de cette vérité que nous sommes nés de nouveau par Dieu lui-même.
Parfois, les notes sont très explicatives. Ici, il y a aussi une note qui dit exactement ce que Franck vient de dire, non seulement Dieu nouveau, mais entièrement à nouveau, comme d'une nouvelle source et origine de vie. Et en allemand, il y a une note qui dit « d'en haut ».
Et c'est exactement la différence. Il y a une comparaison avec notre naissance naturelle. Quand nous sommes nés, nous avons reçu la nature de nos parents. C'est impossible d'avoir une autre nature de ses parents. C'est pareil avec les animaux. Quand il y a un chien qui est né, il n'y a pas des parents qui sont d'autres choses que des chiens aussi. C'est très très clair et c'est visible à chacun. Et maintenant, cette nature, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents? C'est la nature charnelle. C'est la nature d'être pécheur. C'est la nature qui ne cherche pas Dieu. C'est très très vivant, quand même Hans August nous a expliqué qu'il est mort, mais c'est spirituellement bien sûr. Mais c'est une nature qui est très très active, mais qui veut pas et peut pas faire la volonté de Dieu. Et encore une fois, Dieu ne peut pas utiliser cette nature, pas du tout. Mais il a fait quelque chose complètement nouveau. L'origine, c'est Dieu lui-même, Et ainsi, nous avons lu aussi dans le premier chapitre que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Nous sommes très habitués de l'exprimer, nous sommes des enfants, et exprimer que Dieu est notre Père. Mais c'est exactement cette relation qui est établie par la nouvelle naissance. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'il est l'origine de cette nature divine que nous possédons. Encore un verset au premier épître de Jean qui n'a pas cette sujet de naissance, mais qui nous montre que c'est la base, le fondement, c'est le verset de communion. Nous avons la communion, verset 3. Notre communion est avec le Père, est avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion est seulement possible parce que nous avons reçu la nature divine par la nouvelle naissance.
C'est intéressant que nous trouvons cette vérité de la nouvelle naissance dans Jean 3 et celle de l'adoration dans Jean 4. Et en Jean 3, c'est question d'un pharisien, d'un homme très noble. Dans Jean 4, c'est une femme pécheresse. Alors, si moi j'aurais choisi, peut-être j'aurais pensé qu'il fallait parler avec le pharisien de l'adoration. Il faut présenter la vérité de la nouvelle naissance à cette femme pécheresse. Mais le Seigneur, il fait le contraire. Pourquoi? Cela nous amène à une autre question. Quel est le problème qui est résolu par la nouvelle naissance? Ou quel est le problème auquel la nouvelle naissance répond? Pour montrer un peu ce que je veux dire, je donne un peu les contrastes. La justification, c'est une réponse à notre condamnation. Nous étions sous condamnation, alors il fallait la justification. Prenons la rédemption. La rédemption est la réponse à notre état d'esclavage. Il nous fallait être rachetés, la rédemption. La réconciliation est encore autre chose. C'est la réponse au fait que nous étions des ennemis. Les ennemis doivent être réconciliés. Mais maintenant, la nouvelle naissance. Je dirais que la nouvelle naissance est la réponse à notre corruption, à notre état de corruption dans notre état naturel. Et cela est très impressionnant pour moi que pour donner cet enseignement, le Seigneur choisit justement le pharisien. Il dit, même le meilleur exemplaire de l'humanité, le docteur d'Israël, il est dans une telle corruption que rien ne peut aider que la nouvelle naissance. Alors, c'est peut-être le côté négatif, c'est une réponse à notre état de corruption. Sur le côté positif, notre frère Jean en a déjà parlé, la nouvelle nature nous rend capable d'entrer dans une communion avec Dieu. Une personne qui n'a pas reçu la nouvelle nature ne peut même pas se réjouir d'un verset de la Bible ou d'un cantique chrétien. La chair ne peut pas se réjouir du Seigneur Jésus. Pour cela, il nous faut la nouvelle nature. Alors, nous avons déjà trouvé la nouvelle nature dans ce chapitre Jean 3, ce qui est né de nouveau. Il y a aussi Pierre et Jacques qui en parlent, qui mettent l'accent sur la parole qui est utilisée dans le processus de la nouvelle naissance. J'aimerais aussi juste remarquer que, dans un sens, nous trouvons aussi la nouvelle naissance dans les écrits de Paul. Et j'aimerais montrer deux exemples qui nous montrent combien c'est merveilleux d'avoir cette nouvelle nature. Dans Éphésiens et Colossiens. Éphésiens, premier chapitre. Et verset 4, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Saints et irréprochables devant lui. Cela a été effectué par la nouvelle nature. Ou par Dieu qui nous a donné la nouvelle nature. Et puis dans Colossiens, premier chapitre, verset 12, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. » Comment il nous a rendus capables de participer? Je pense que c'est justement en nous donnant la nouvelle nature. En faisant cela, il nous a rendus capables. Alors, le Seigneur parle de ce sujet avec Nicodème. Il met l'accent sur la nécessité absolue. En vérité, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jusqu'ici, le Seigneur parle de la nouvelle naissance dans un sens général qui était aussi connu dans l'Ancien Testament. Alors c'est pour cela qu'il parle du royaume de Dieu et de la nécessité de la nouvelle naissance même pour voir le royaume de Dieu. Cela fait encore partie des choses terrestres. Ça veut dire, jusqu'ici, il ne parle pas encore de la vie éternelle, dont il parle plus tard, à partir du verset 15. Mais il parle de la nouvelle naissance qui est la part des croyants dans tout âge, Ancien Testament, Nouveau Testament. Pour avoir une relation quelconque avec Dieu, à chaque époque, il faut absolument cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature. Et c'est une grâce immense de ce que Dieu a voulu faire ça et de ce qu'il a fait, de nous donner une nature qui n'est pas capable, dans une mesure, d'entrer dans les choses de Dieu et de nous réjouir de la communion avec lui.
Donc si on avance un peu dans ce chapitre, après cette première affirmation du Seigneur très solennelle, soulignée par l'expression « en vérité, vérité, je te dis », si quelqu'un est né de nouveau, on a souligné le sens profond de cette expression, peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur, au verset 5, dit de nouveau « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». C'est bien la même nouvelle naissance qu'il est question. Ce qui est dit au verset 3, « Né de nouveau, à nouveau, de manière entièrement nouvelle. » Le Seigneur précise en quelque sorte au verset 5, « D'eau et de l'esprit. » Et là, peut-être remarque, c'est on peut facilement se tromper en quelque sorte si on lit les choses trop vite et comme malheureusement beaucoup de personnes l'ont fait dans la chrétienté en disant eh bien né d'eau et de l'esprit, on peut faire un rapprochement un peu trop rapide avec ce qui caractérise le christianisme, c'est le baptême d'eau et puis le sceau du Saint-Esprit. Pour ne pas parler du baptême de l'Esprit qui est encore quelque chose de différent, de collectif. Mais justement, c'est un rapprochement qui est peut-être facile à faire, mais qui est faux. Puisque on nous l'a souvent enseigné, je pense que c'est quelque chose qui est clair pour chacun ici, mais qu'il faut rappeler. L'eau, cette naissance par l'eau et par l'esprit ici, ce n'est pas ni le baptême d'eau, ni le sceau du Saint-Esprit. Et ça correspond tout à fait à ce que vient de nous dire notre frère Michaël, puisque une des raisons pour cela, c'est que c'était aussi la part des croyants de l'Ancien Testament, qui n'avaient ni le baptême d'eau, ni le sceau du Saint-Esprit, cette nouvelle naissance. Donc, sans doute que d'autres frères compléteront ce que je dis là en introduction, mais on a souvent enseigné que ici l'eau, c'est l'action de la parole, comme le confirmé par bien d'autres passages, effectivement, de Pierre, par exemple, nous sommes régénérés par la parole de Dieu, précieuse parole de Dieu, et je ne lis pas les passages pour le moment, et c'est cette eau qui est figure de l'action de la parole pour produire cette nouvelle naissance, cette régénération. Et puis l'esprit, eh bien c'est une action du Saint-Esprit, mais qui est extérieure à l'homme. Ce n'est pas l'action de l'esprit habitant en nous. Ça c'est plus tard, on verra la réception du Saint-Esprit. Pour les croyants et pour les chrétiens seulement. Mais là, l'action née de l'esprit, une action de Dieu par son esprit extérieur pour appliquer la parole à l'âme et convaincre de péché. Et puis, comme il est dit plus loin dans Jean 16, on l'a lu tout à l'heure, et pour convaincre de la réalité de ce que Dieu dit et appliquer cette parole à l'âme pour la régénérer. Donc c'est une action qui était aussi le cas pour les croyants de l'Ancien Testament en qui l'Esprit de Dieu agissait pour leur donner la vie. Et donc c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut comprendre cette expression et ne pas faire ce rapprochement trop rapide avec ce qui nous est dit par ailleurs concernant le christianisme.
Ce qui est très touchant ici, comment le Seigneur amène Nicodème à réfléchir sur ce sujet. Dans le verset 3, le Seigneur, il dit d'abord, en vérité, deux fois, quelque chose de très important. Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est plutôt général. Il crée un besoin chez lui. Voir le royaume de Dieu, c'est quoi ça? Et puis, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il raisonne logiquement. C'est bien. Le Seigneur, ça c'est merveilleux. C'est important pour nous aussi quand on parle avec quelqu'un, quand on prêche la parole, nous devons toucher les cœurs. Les écouteurs doivent nous suivre, doivent comprendre ce qu'on veut dire. Donc, il dit, né de nouveau, moi je suis âgé, c'est pas possible, c'est pas logique. Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Logique. La logique terrestre de la chair, ça ne peut pas nous aider. Ça ne nous fait pas rapprocher du Seigneur. Mais c'est bien. Le Seigneur, il attend qu'on vienne vers lui, qu'on se pose des questions. Ça, c'est merveilleux de voir. Je crois un frère a cité, jusqu'au chapitre 10, c'est toujours des relations individuelles que le Seigneur a. C'est seulement à partir du chapitre 10 qu'il parle à ses disciples. Mais jusqu'au chapitre 10, c'est toujours des personnes individuelles. Mais comment, quel amour il apporte le Seigneur pour faire sortir quelque chose dans ses cœurs. Alors Jésus dit, dans le verset 5, « en vérité, une deuxième fois, quelque chose de très important. Je te dis, si quelqu'un n'est né de nous, né de haut et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, encore quelque chose de plus. Pas seulement voir, mais rentrer dedans. Et puis, il ajoute, il faut quelque chose de plus. Pas le baptême, mais un travail de Dieu. L'eau, le travail de la parole de Dieu, et l'esprit, le travail de Dieu par l'esprit. Mais j'aime surtout mettre l'accent sur la manière comment le Seigneur touche les cœurs, comment le Seigneur parle avec quelqu'un. Et ça, c'est très important pour nous aussi, pour nos moments où nous pouvons être seuls avec le Seigneur. Est-ce que nous avons aussi des questions simples à lui poser? Le Seigneur répond. Il a tant de questions de notre part. Parfois, il crée des questions, il veut créer des questions, il veut qu'on sorte de cette isolation dans laquelle nous sommes pour venir vers lui. Merveilleux. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Logique. Quelqu'un dit chien, chien, chat, chat. Et ce qui est né de l'esprit et esprit. Ne t'éteigne pas de ce que je t'ai dit. Il faut être né de nouveau.
En verset 4, Nicodème présente deux concepts qui sont bien connus jusqu'à aujourd'hui dans tout le monde. Le premier concept, c'est dans la question « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Ça, c'est l'idée de pouvoir s'améliorer soi-même. Ce sont des efforts pour changer quelque chose dans notre vie. Ce sont des personnes qui ont compris que leur vie, leur caractère, etc., n'est pas comme il faut. Il faut faire quelque chose. En Allemagne, il y a des légendes qui parle d'un Jungbrunnen, un puits où on plonge les vieux et ils en sortent de cette eau comme des jeunes. Une chose impossible, un rêve. La deuxième question, peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? C'est le concept de la réincarnation. Oui, tous les bouddhistes, les hindous, etc., ils croient dans ce concept. La possibilité de continuer, d'avoir une autre vie après cette vie sur la terre. Une autre vie, une seconde, une troisième vie, avec la possibilité de vivre dans une meilleure façon et d'améliorer son sort. C'est également impossible. Et c'est ce que le Seigneur veut dire en verset 5. Si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de futur pour lui, pas de possibilité future pour changer quelque chose, pour améliorer quelque chose. Et comme c'était expliqué déjà, né d'eau et de l'esprit, ça a divers aspects, pas l'eau. C'est vraiment l'eau de la parole de Dieu. Un aspect, c'est que nous sommes lavés par la parole de Dieu que nous avons cru lors de notre conversion. Nous sommes lavés de nos vieilles relations, de nos vieilles habitudes, de nos péchés, etc. Mais un autre aspect est présenté à nous dans ce verset que nous avons lu déjà en 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Je crois que par cette parole de Dieu, nous avons reçu un nouveau caractère. La parole de Dieu est vivante et sa demeure. Et nous avons reçu ce caractère. Nous sommes des personnes, des pierres, maintenant vivantes, comme Pierre dit. Et nous avons un caractère, une nouvelle nature qui demeure éternellement, qui ne peut pas être terminée par la mort. Donc, le Seigneur Jésus, il donne de l'espérance à cet homme. Il lui dit, ce dont tu as besoin, ce n'est pas enseignement, c'est la vie.
Nous avons reçu la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, elle est liée avec la vie éternelle. On a dit tantôt, beaucoup de vrais croyants n'ont pas la certitude de leur salut. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a cette nouvelle naissance qui va avec cette nouvelle vie, cette vie éternelle. Quelqu'un qui vient au Seigneur, il a cette vie éternelle, il ne peut donc pas la perdre. C'est quelque chose que nous sommes heureux de savoir et qui nous encourage aussi et qui nous fait monter des actions de grâce envers Dieu. Quand on voit ce que nous parfois pouvons commettre comme péché, eh bien, néanmoins, nous savons que nous ne pouvons pas perdre le salut. Quelle grâce de la part de Dieu. Mais voilà, cette nouvelle naissance, elle nous donne aussi une responsabilité. On peut le lire dans Romains au chapitre 6, où il nous est dit, au verset 3, au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà, cette nouvelle naissance nous donne maintenant la responsabilité de marcher en nouveauté de vie. Ce qui est de notre chair doit être mis de côté, parce que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui, et nous devons maintenant manifester que nous avons une autre vie, une nouvelle vie. On peut voir aussi un passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 22, on peut dire déjà verset 22 à la fin, au milieu d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Voilà, nous avons revêtu le nouvel homme. Et encore un passage dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 8. « Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance. » Et donc, dans cette épître aux Colossiens, on voit au début « Mortifiez vos membres », on voit toutes les choses que nous faisions avant. Et bien maintenant, nous avons revêtu le nouvel homme, donc c'est un privilège d'avoir eu cette nouvelle naissance et nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Et là, ne devons-nous pas bien parfois reconnaître que nous ne manifestons pas toujours les caractères de notre nouvelle nature, que le Seigneur nous donne de pouvoir mieux considérer comment nous marchons et que nous puissions ainsi être mieux des exemples pour ceux qui n'ont pas encore la vie nouvelle.
Permettez encore une petite pensée pratique. Je ne me souviens plus de ma naissance naturelle. J'étais présent, c'est clair, mais je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. C'est pareil avec la naissance spirituelle. Qu'est-ce que je fais? Je me rappelle que je me suis repenti, que je me suis converti. Mais il fallait des années de comprendre que c'était ce moment-là où j'ai reçu la vie nouvelle. C'est pas une expérience, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose de mystérieux qui se déroule. Et je pense que c'est important de le dire aussi dans ces jours-là, parce que c'est un danger de souligner trop nos sentiments et nos expériences.
L'action de l'Esprit de Dieu peut se faire de différentes manières, progressivement, comme il vient d'être dit, ou tout d'un coup. Ne mettons pas ça de côté non plus. Le Seigneur peut se révéler à une âme et donner cette certitude du salut, voilà, dans une rencontre personnelle avec lui. Pour Nicodème, il semblerait que c'est pris du temps. Il a entendu l'enseignement du Seigneur. Il a entendu ce message « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». L'a-t-il reçu tout de suite ? Il semble pas, on n'en sait rien. En tous les cas, on voit plus loin dans les évangiles, au chapitre 7, à la fin de l'évangile, chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 50, « Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit, l'un des chefs, « Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il fait ?» Déjà, il y avait quelque chose qui avait travaillé son âme. Et puis, au chapitre 19 de Jean, verset 39, Nicodème aussi, « Celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus vint, apportant une mixtion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il va oser naître à cette vie nouvelle, là, à la croix de Jésus. » Le jour de sa mort, il a été touché, peut-être. Il avait déjà été touché, mais là, il manifeste quelque chose de la vie de Dieu, de cette vie nouvelle qu'il a reçue. Celui qui était venu de nuit à Jésus, là, dans cette soirée, dans cette nuit où il va ensevelir le Seigneur avec Simon et Cyrénéen. La parole de Dieu le mentionne d'une manière remarquable. Le travail de Dieu s'est effectué en lui, en Nicodème, oui. On ne sait pas combien de temps, mais en tous les cas, ce travail de Dieu a été fait. Il peut être plus prompt, il peut être le travail d'une nuit, d'une journée. Dieu le sait, tout cela. Mais il faut qu'il y ait cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Et très précieux de voir en Jean 6, dans les enseignements sur le pain de vie, sur cette la multiplication des pains, tout le chapitre en parle. Et on voit au verset 51 du chapitre 6, « Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voilà, c'est de lui dont nous avons besoin, dont l'âme, toute âme, tout homme a besoin. Et il dit, « Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et son vie. » Pierre l'avait compris. Il répond, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, les paroles du Seigneur Jésus. Ces paroles-là sont la vie éternelle. Alors lisons l'Évangile, annonçons l'Évangile, les paroles du Seigneur lui-même, ces paroles qui peuvent toucher une âme, qui peuvent interpeller une âme, pour qu'elles viennent à lui et reçoivent la vie éternelle.
Cet après-midi, à plusieurs reprises, nous avons utilisé ce terme « nouvelle nature ». Moi aussi. Je ne crois pas qu'on trouve cette expression dans la Bible, mais nous trouvons bien la chose. Au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est vrai, il ne parle pas de nature, mais le verset parle de ce que c'est une nature. C'est quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui est inaltérable. Et c'est justement ce point une souris ne sera jamais un oiseau. C'est impossible. Vous pouvez éduquer autant d'années que vous voulez. La nature ne change pas. Alors, il y a deux natures ici. Il y a ce qui est né de l'esprit et il y a ce qui est né de la chair. D'abord, d'ailleurs, ce qui est né de la chair est chair. Alors ça, c'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'ancienne nature. Et deuxième partie, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela, c'est ce que nous voulons désigner par nouvelle nature. Alors, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? À la nouvelle naissance, nous recevons cette nouvelle nature sans jamais perdre l'ancienne. Autant que nous sommes sur la terre, nous avons encore toujours cette ancienne nature. Alors, où je trouve cet enseignement? Excusez-moi, encore une fois, je vous donne une réponse qui n'a pas l'expression de l'ancienne nature, mais l'idée. Vous connaissez très bien Romains 7, verset 21, je crois. La chair qui habite en moi. Et justement, cette expression chair est très intéressante parce que ma chair, je ne peux jamais laisser derrière moi. Quand j'arrive en Belgique, j'ai la chair avec moi, je veux dire naturellement mon corps. Je l'ai avec moi. Et Dieu, il saisit ce terme pour décrire l'ancienne nature qui habite en nous, que nous ne pouvons jamais laisser derrière. Alors, une suggestion qui concerne la comparaison avec les termes que Paul utilise, nouvel homme, ancien homme. Parce que là, c'est l'idée que l'ancien homme est crucifié. Nous l'avons dépouillé, c'est l'expression?
Ouais.
Laissé derrière. D'une façon, sur le niveau de principe, c'est le cas absolument. Et nous devons le démontrer dans notre vie. Le nouvel homme, comme il a été dit, c'est Christ caractéristiquement. Le nouvel homme a les traits de Christ. Mais l'idée, c'est que nous avons laissé derrière l'ancien homme et nous avons mis le nouvel homme. Vous voyez la différence que j'aimerais montrer avec les natures. Avec les natures, c'est différent. J'ai encore l'ancienne nature que j'ai toujours eue depuis ma naissance naturelle. Et j'ai maintenant aussi la nouvelle nature depuis la nouvelle naissance sans perdre l'ancienne. Encore un point, la différence entre la nouvelle naissance et la vie éternelle. Parce que j'avais dit un peu avant que ce n'est pas la même chose. Bien sûr, aujourd'hui, si quelqu'un est né de nouveau, il croit au Seigneur Jésus, il a aussi tout de suite, dès ce moment de la nouvelle naissance, il a la vie éternelle. Mais la vie éternelle est plus pleine. Elle implique la connaissance du Père et du Fils. C'est ce que le Seigneur appelle la vie en abondance. En abondance. Jean 10, verset 10, je crois. Je leur donnerai la vie et la vie en abondance. Et dans Jean 17, nous apprenons ce que c'est de connaître le Père et le Fils. Et c'est cet aspect-là que les croyants dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas avoir cette vie dans cette plénitude. Mais aujourd'hui, bien sûr, pour ne pas créer un malentendu, si quelqu'un est né de nouveau, aujourd'hui, il croit, il a la vie éternelle directement.
Nous avons ces deux versets avec nature. Nous qui étions par nature des enfants de colère, maintenant nous sommes participants de la nature divine.
Oui, absolument. Disons, Éphésiens 2, par nature. Je veux dire, on n'a pas de verset qui parle de la nouvelle nature ou de l'ancienne nature. Mais bien sûr, c'est justement cette pensée, Éphésiens 2. Ce ne sont pas seulement les faits, les actes commis, mais l'état dans lequel nous étions, par nature, enfants de colère.
Tout à l'heure, on a fait l'allusion au fait que la nouvelle naissance, on pouvait la comparer avec la naissance d'un enfant. Un enfant, quand il naît, la première chose qu'il fait, il crie. Un enfant, quand il naît, il a un instinct de vouloir se nourrir et de se tourner vers sa maman. Pour nous aussi, on peut dire que la nouvelle naissance, il y a des signes visibles. Quand on prend en acte 9, on voit que l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse, il est dit « voici, il prie ». Et puis on voit que la nouvelle naissance, ce n'est pas juste un concept ou quelque chose qui serait théorique, mais il y a forcément des éléments de la vie qui commencent à paraître et qui sont visibles des autres. Ça fait un peu la suite de ce que l'on disait ce matin en rapport avec la conversion ou en rapport avec la repentance. Ce n'est pas des choses théoriques, c'est des choses qui ont des perceptions qui peuvent être visibles des autres et qui devraient être visibles des autres, sans effort. Parce que ce qui est spirituel, ce qui est né de l'esprit, est esprit. C'est quelque chose qui vient naturellement et qui naturellement se fait est quelque chose de visible. C'est pas la loi qui va obliger à paraître sous une forme ou sous une autre, mais c'est parce que j'ai cette vie nouvelle, cette nouvelle nature qui est en moi et qui va faire apparaître des signes qui sont intangibles et qui vont nous aider à discerner si cette personne a la vie de l'esprit ou pas.
J'aimerais ajouter une pensée pratique. Nous avons appris, et cela nous a été expliqué, que nous avons ces deux natures. La vieille nature, la parole de Dieu dit la chair ou le péché, c'est la vieille nature, et nous avons la nouvelle nature, la parole de Dieu dit c'est l'esprit. Il est très important de savoir, de reconnaître que nous avons ces deux natures. Il y a une assez nouvelle doctrine venant de l'Amérique du Nord qui nous dit nous n'avons plus la vieille nature, nous n'avons que la nouvelle nature. Ce n'est pas selon l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut distinguer entre vieille nature et nouvelle nature, et le vieil homme et le nouvel homme. Ce n'est pas la même chose. Nous avons ces deux natures. Une remarque pratique. Selon quelle nature est-ce que nous vivons dans la vie quotidienne? Selon la chair, nous ne sommes plus dans la chair, mais nous pouvons vivre selon la chair. C'est ce que nous lisons en Romains 8. Ça veut dire nous pouvons, même comme chrétiens, nous pouvons vivre selon la chair comme un incrédule. Nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau, mais nous pouvons vivre selon la chair. Bien sûr, l'Esprit Saint nous amène à vivre selon la nouvelle nature, selon l'Esprit, sous la direction de l'Esprit. Comment est-ce qu'on peut vivre selon la nouvelle nature? La question importante, quelle nature est-ce que nous nourrissons? Est-ce que nous donnons la nourriture à la nouvelle nature ou à la vieille nature? Que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, verset bien connu, comme des enfants nouveau-nés, voilà la nouvelle naissance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait intellectuel. C'est quoi? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La nourriture de la nouvelle nature, c'est la parole de Dieu. Nous venons de parler de la prière, c'est une colonne, et la deuxième colonne, c'est la parole de Dieu. Il faut nourrir la nature. quelle nature est-ce que nous nourrissons? C'est une question sérieuse, n'est-ce pas? Une question très pratique. J'aimerais utiliser une petite illustration que le frère Max Billeter a utilisée des fois. Il a parlé de deux animaux, un aigle et un chien. Et les deux sont liés ensemble, zusammengekettet, enchaînés, sont enchaînés, n'est-ce pas? L'aigle, il veut monter en haut et le chien, il veut rester en bas, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'aigle peut quand même s'envoler? Ces deux animaux, ce sont les deux natures. Il faut nourrir l'aigle. Il faut nourrir la nouvelle nature et ainsi nous pouvons être dans l'atmosphère céleste. Nous pouvons vivre selon l'esprit. Mais si par contre nous donnons de la nourriture à la vieille nature, à la chair, nous restons en bas, sur la terre, occupés avec des choses terrestres, mondiales, pécheresses. C'est aussi une question relative à notre sujet, une question pratique. Quelle nature est-ce que nous nourrissons? Selon quelle nature est-ce que nous vivons? Selon la chair, vieille nature, ou selon l'esprit, nouvelle nature?
Juste une toute petite remarque, puisque l'heure est là. Nous avons vu ce passage dans Jean 3 qui nous parle de la nouvelle naissance. C'est dans ce même passage que nous avons Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà tout cela, tout ce dont nous parlons résulte de l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés d'un tel amour qu'il a donné son Fils Jésus. Nous pouvons ainsi louer, et c'est ce que nous ferons pendant l'éternité, louer Dieu pour son amour qui nous a donné toutes ces choses.